Que vous pensez? Qu'est-ce que le Midrash peut vouloir nous enseigner ici? On est dans le verset qui nous parle de l'ange qui annonce à Sarah, plus exactement, il annonce à Abraham que Sarah va être enceinte et que l'an prochain, elle aura un enfant. Et là, il y aurait tout à coup un problème de yichoud. Quand on dit que Sarah était à la porte de la tente, et donc, normalement, si elle est à la porte de la tente, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce que le Midrash, lui, il apprend directement que Sarah Shomaat, Petach Haoel, Vehu Acharav. Sarah, elle écoute, ou elle entend, en étant à la porte de la tente. Donc, elle n'est pas vraiment dans sa tente. Elle est à une porte de la tente. Porte de sa tente, ça veut dire quoi? Il y a une porte entre sa tente et la tente d'Abraham. Et c'est là qu'elle est. Alors quel est le problème de Yichud si elle est dans la porte entre les deux? Abraham est là aussi, alors quel est le problème? Pardon?
Parce que dans la première lecture, on ne peut pas dire qu'il y avait une volonté de l'ange d'annoncer directement à Sarah, et pas à Abraham. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il annonce à Abraham, après Sarah va arriver. Ça complique l'histoire. Après, ça va avoir d'autres problèmes. Alors que c'est naturel que l'ange va s'adresser à Sarah. La principale intéressée par rapport à cette annonce.
En fait, Abraham et Sarah ne sont pas sur le même plan. Abraham, il a déjà un enfant. C'est Sarah. La grande nouveauté, c'est que Sarah va avoir un enfant. Abraham a un enfant et quand Hachem lui a dit qu'il aurait un enfant, il lui avait dit précédemment qu'il allait avoir un enfant, Abraham, à ce moment-là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu vas faire un miracle pareil que nous, deux vieillards, on va avoir un enfant, fait en sorte qu'Ishmaël devienne un type bien. Donc on voit que Abraham, ça ne le dérange pas que sa descendance ne soit pas obligatoirement une descendance avec Sarah. C'est ce que Sarah va lui reprocher. Elle va lui reprocher très durement. Dans Rezal, on voit que Sarah, elle a quasiment passé Abraham à tabac. Elle a dit, t'aurais dû... quand Hachem t'a parlé, au lieu de dire je n'ai pas d'enfant, tu aurais dit nous n'avons pas d'enfant. Et j'aurais dit. Alors Hachem aurait tout de suite réglé le problème. Et donc ici, du coup, le fait qu'Ishmaël soit là, c'est une façon de rappeler que Abraham, lui, il a un enfant. Il a déjà, et cet enfant, il est là. Il est là. Celui qui aurait pu être, il ne l'est pas parce qu'Hachem lui a dit, il a dit à Abraham, non, l'enfant qui sera ton successeur, c'est un enfant que tu auras avec Sarah. Et pas un enfant que toi, tu auras éventuellement, enfin, comme tu l'as eu avec Agar, mais c'est un enfant avec Sarah. Et donc, c'est possible que la présence d'Ishmaël ici, elle est mentionnée pour nous rappeler pour que c'est bien qu'Hachem parle à Abraham en lui disant, je reviendrai vers toi. Et il lui dit pas, tu auras un enfant. Ou le Sarah, ben, je reviendrai vers toi l'an prochain. Et quand je reviendrai vers toi, Sarah a eu un enfant. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. C'est mal construit. Bon, je reviendrai vers toi et Sarah a un enfant. Alors, je reviendrai, mais pas besoin de dire vers toi. D'accord? Je reviendrai, on comprend. Ou le Sarah Ben. Je reviendrai vers toi, mais il faut que tu comprennes que c'est vers toi que je reviens. Sarah, elle a un enfant, et maintenant c'est fondamental. Maintenant, c'est ça ton enfant à toi. Et cet Ishmaël qui est là, alors il a une fonction. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va empêcher le Malach d'avoir une relation directe avec Sarah. Bon, s'il est tout seul, dans l'idée, si Yahirut, c'est qu'il est d'une certaine manière seul avec Sarah. Et Ishmaël est là et il empêche le Yichoud de. Comme s'il protégeait Sarah. Il est là pour protéger Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire que le fils d'Abraham, il protège Sarah d'être Yichoud? Ça veut dire. Bon, est-ce qu'il est là pour Sarah ou il est là pour Abraham? Est-ce qu'il est là pour que la femme d'Abraham ne soit pas Béhoud avec quelqu'un, parce qu'elle est la femme de son père. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il vient faire avec Sarah? Il n'a rien à voir avec Sarah. Mais Sarah, en tant que l'épouse de son père, dont il ne veut pas qu'elle ait une relation, même s'il n'y a pas, on ne soupçonne rien du tout, mais dans le dîne de Yéhoud, c'est un homme et une femme qui ne sont pas mariés et n'ont rien à faire ensemble, quelque part. Ils n'ont pas à être isolés ensemble. Enfin, dans le même isolement, quoi.
Peut-être qu'ils se servent du Yéhoud, pas du tout pour ça.
Pardon,
Peut-être
il?
qu'ils se servent du Yéhoud, mais ni pour Abraham, ni pour ça.
Alors, qu'est-ce que vous proposez?
Il n'empêche.
Il empêche quoi? Il
Il
empêche un Yéhoud.
empêche un rapprochement.
Oui, d'accord, il empêche un Yéhoud. Qu'est-ce qu'il veut empêcher? Pardon?
L'annonce. L'annonce.
Est-ce que on peut dire que est-ce qu'il essaye? Il a compris qu'il va se passer quelque chose. Est-ce qu'il est il essaie? Mais comment ça peut marcher? Qu'est-ce qui va empêcher? Qu'est-ce qui va disqualifier Sarah? Alors, si Sarah est en Yéhoud avec quelqu'un d'autre, quelque part, il la disqualifie pour devenir l'épouse, enfin pour fonctionner comme l'épouse d'Abraham, la mère du successeur. Parce que si elle s'est isolée avec quelqu'un, alors, bon, une femme qui s'isole avec quelqu'un, elle n'est pas interdite à son mari, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas.
Mais là, il l'empêche justement de s'isoler.
Alors justement,
On ne rentre
Il vient ici parce que il veut être lui, il veut empêcher, c'est pas le Yichud qui veut empêcher, il veut empêcher la communication entre le porteur de la nouvelle et celle qui est la première concernée par la nouvelle. Donc si on peut, là du coup, il travaille pour sa mère. Oui, pour Agar. Parce qu'Agar, elle est l'épouse d'Abraham. Elle a un enfant, c'est complètement glatte, il n'y a aucun problème. Mais là, peut-être s'il y avait un Yichoud, alors, le Yichoud, s'il l'empêche, alors ça, c'est mieux, quoi. Il empêche le Yichoud. Mais d'un autre côté, il est là et il a une chatzitsa dans la relation. Le problème, ce n'est pas tellement le Yichoud au sens de la disqualifier pour Abraham comme tel, Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas que le malakh puisse lui dire. Si le malakh ne lui dit pas, elle l'a pas, elle n'a pas vraiment. Cet enfant,
Voilà, ne pas lui dire, c'est ne pas avoir un fond.
c'est faire en sorte qu'elle n'a pas d'enfant. Si vous voulez, c'est la fameuse question. On va faire tout un plat de ce que Sarah, qui est une vieille dame, 90 ans, c'est une vieille dame, pour avoir un enfant, alors que la mère de Moshe, quand Moshe est né, Yochebed, elle a 130 ans. Et on n'en parle pas. Tout le monde pose la question, comment se fait-il qu'on ne fasse pas tout un plat de, parce que c'est pas seulement Moshe qu'elle a eu seulement tard. Parce qu'Abraham, Aaron, le frère de Moshe, il a entoué pour toutes 3 ans de différence avec, avec Moshe. Donc, OK, elle avait 127 ans. D'accord. Et puis, il y a aussi Myriam, qui est aussi dans les parages. Donc, pourquoi on n'en parle pas? Alors, la règle, c'est que on ne parle pas d'un nes si le nes n'a pas été annoncé. La vraie dimension d'un nes, d'un miracle, c'est qu'il a été annoncé et le miracle, c'est que ça s'accomplit. C'est-à-dire, c'est une annonce qui s'accomplit. D'une certaine manière, si on empêche l'annonce, même si ça arrive, ça s'est pas vraiment accompli. Quelque part, c'est arrivé. Yochebed, elle a bien eu ses enfants entre 120 et 130 ans. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ça veut dire, la Torah nous donne les moyens de calculer et on sait quel âge elle a. On le sait, mais on n'en fait pas un plat. Et donc là, ici, il est là, il fait une espèce de chatzitsa, il fait écran entre les deux. Alors, il n'y aura pas de yichoud, mais ce n'est pas le problème du yichoud, du issour. Mais il ne veut pas qu'elle puisse, il puisse lui parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut se demander, est-ce que c'est pour ça que le malach ne parle pas à Sarah? Et pour que Ishmaël puisse pas empêcher. Le malach, il parle à Abraham. Il annonce la naissance chez Sarah, mais il l'annonce à Abraham. Là, du coup, Ishmaël, il peut pas empêcher cette annonce-là, parce que le malach parle avec son père et il peut rien faire. Il peut empêcher que le malach le dise à Sarah directement. Il ne peut pas empêcher que la chose soit dite à Abraham concernant Sarah. Donc c'est ça le premier élément de la première lecture du Midrash. C'est toujours comme ça que quand il y a deux lectures de quelque chose, que ce soit dans la Gemara ou dans le Midrash, je crois que la première lecture, c'est une lecture subtile, très subtile, sur laquelle on pourrait pinailler un peu. Et la deuxième, c'est complètement carré, il n'y a rien à dire comme ça. Mais si tu veux réfléchir, le chidouche, il est dans la première version. C'est ici le problème, c'est là le truc subtil, c'est que il faut comprendre, c'est pas que Ishmaël, il ne veut pas que Yitzhak naisse. Il ne veut pas qu'Abraham ait un autre enfant que lui. Il veut être lui, le descendant dépositaire de l'enseignement d'Abraham. C'est ça qu'on nous dit d'abord. Après, on va donner une explication plus standard, qui marche pas très bien non plus, parce que vous, Aharav, lui, il est derrière, et on va dire, qu'est-ce qui est derrière? C'est pas lui, c'est que quand il regarde derrière, il voit qu'il y a de la lumière derrière lui, qui vient de la lumière, qui vient de la tente de ça. C'est assez acrobatique comme explication. C'est pas vous, Aharav, c'est pas que lui, il est derrière. D'accord? Il faut vous, Aharav, dit le Midrash. זה המלאך שהביץ לאחריו, למלאך ילך גרדה לאחריו, דרייר לוי, אין פט. אלא סנטי כיאבד ללומייר, כיוונד דרייר לוי, ולמי זה, פוקו אסקילה גרדה, אסקילה כזימן סנטי כיאבד La lumière qui arrivait derrière lui, qui venait de la tente de Sarah. Ça veut dire que le malach, il n'est pas du tout en train de parler avec Sarah, il lui tourne vraiment même le dos, d'accord? Mais il y a de la lumière qui vient de chez Sarah. Ça veut dire quelque part, c'est Sarah qui éclaire le malach. Alors qu'a priori, c'est le malach qui vient éclairer Sarah. Puisqu'il vient lui annoncer qu'elle va devenir mère. Alors, mais c'est elle qui l'éclaire. Ça veut dire qu'en réalité, c'est Sarah qui, faut comprendre comme ça, que Sarah, c'est Sarah qui induit ce que va dire le malach. C'est-à-dire la naissance de Yitzhak est la conséquence de la démarche de Sarah. La démarche de Sarah, c'est que quand elle a donné Agar à Abraham, elle a dit, je donne ma servante à Abraham. En d'autres termes, je fais entrer dans mon couple une étrangère, une concurrente, en fait. Et j'espère qu'Hachem qui vois combien je suis prête à me sacrifier pour Abraham, en fait. Je suis prête à m'écraser. Mais au fond de moi-même, j'espère qu'Hachem, voyant combien je suis prête à donner, qu'il aura pitié de moi et qu'il m'enverra à moi aussi un enfant. Vous voyez, c'est important parce que cette idée de je vais avoir un enfant avec ma servante. C'est quelque chose que vont dire aussi Rachel et Léa. Mais elle, ça, c'est pas du tout la même chose que Sarah. Parce que elle pense que leur servante, sont a priori, c'est les demi-sœurs à elle, c'est toutes les filles des concubines de Laban, les deux servantes, alors que Rachel et Léa sont des filles, des femmes de Laban, pas des concubines. Et Rachel et Léa, elles pensent que l'enfant, bien qu'il soit porté dans le ventre de leur servante, ce sont elles, chacune d'entre elles, qui vont élever l'enfant. Et donc elle dit, chacun dit, je vais ébaner, ça veut dire je vais me construire. Le lachon de Ben, c'est la même racine, enfin c'est la racine de Binyan. C'est-à-dire avoir un enfant, c'est une construction de la femme. Dans le langage de la Torah, Ben c'est Binyan, et la femme, et Rachel et Léa, elles disent, Oulai ébané, c'est Rachel. Peut-être que je vais me construire par le biais du ventre de ma servante, en fait. Je donne ma servante, elle va avoir un enfant de façon complètement classique avec mon mari, mais elles disent, l'enfant, il va naître sur mes genoux. C'est comme si l'enfant, il naissait d'elle. Et l'enfant, il naît sur les genoux de Rachel, et donc et moi je l'élèverai. Donc c'est une façon de devenir mère, quoi.
Et ça, c'est pas l'intention de Sarah.
Et c'est pas l'intention de Sarah. Sarah, elle dit pas ça. Sarah, elle a pas rêvé qu'elle allait pouvoir élever l'enfant de Agar. Sarah, elle pense que elle s'acquiert un mérite en donnant Agar, et que Hachem aura pitié d'elle et qui lui donnera directement à elle un enfant.
Mais est-ce que c'est pas de sa part?
De qui?
Sarah, de regard à...
Non. Elle n'a pas d'obligation du tout.
On aurait pu penser que c'était intéressé.
C'était?
Intéressé.
Bah, c'est intéressé, elle est intéressée à avoir un enfant.
Dans le cadre d'une mitzvah, par exemple, de faire une mitzvah intéressée, c'est pas. Si ça
Non,
avait
mais
été une mitzvah.
si c'était une mitzvah, ça veut dire qu'elle aurait l'obligation de se débrouiller pour qu'Avram ait des enfants. Une femme, elle n'a pas d'obligation d'assurer que son mari va avoir des enfants. Elle a des obligations par rapport à son mari, et le mari il a des obligations par rapport à elle, mais il n'y a pas, premièrement, évidemment, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation de résultat. Bon, simplement que s'il n'y a pas de résultat, alors il y a des. On peut éventuellement. C'est un cas de divorce possible. Abraham, il aurait pu divorcer. Enfin, au départ, ce n'était pas très clair parce que lui non plus, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait pas d'utérus, mais lui, il était toum-toum, donc il n'avait pas d'enfant. Mais bon, ça s'est ouvert avant, puisqu'il a pu avoir un enfant avec Agar. Et donc, ici, on peut dire que le Midrash, il veut nous dire ici que quand le Malach, il vient annoncer qu'effectivement, ce qu'il avait dit à Abraham, ton descendant, celui qui va te succéder réellement, c'est l'enfant que tu auras avec Sarah. Et maintenant, voilà, ça va se réaliser. Mais en vérité, quand Sarah a fait ce choix, en fait, c'est un choix, elle aurait pu dire non, elle aurait pu essayer de, ce qu'elle a certainement fait, on ne nous en parle pas du tout, mais elle a certainement prié pour avoir un enfant. Parce que paradoxalement, c'est marqué nulle part que Abraham et Sarah, ils ont prié pour avoir un enfant. Ils n'ont pas d'enfant, mais nulle part, c'est marqué qu'ils prient. Chez Yitzhak et Rivka, c'est marqué qu'ils prient. Mais chez Abraham et Sarah, ce n'est pas marqué.
Est-ce qu'il y a un événement pour Abraham qui nous dit à quel moment il a pu avoir des enfants, enfin lui, c'est-à-dire
Lui, il a eu un enfant avec Agar quand
oui,
Sarah lui a
mais
donné Agar.
avant il était pas avoir d'enfants lui-même de
Ah
toute
oui.
façon. Là, donc s'il l'a eu avec
Jusque-là,
Agar, et
il ne
on ne sait
pouvait
pas
pas
qu'est-ce qui a
avoir.
déclenché le fait qu'il puisse.
Ben oui, je pense que quand ça fait partie du processus, c'est Sarah qui a rendu Abraham capable d'avoir un enfant en lui donnant Agar. Elle demande à Hachem, fais en sorte qu'il puisse avoir un enfant, parce que si, même quand je lui donne Agar, il n'a pas d'enfant, il ne vaut pas la peine que je me sacrifie pour rien du tout. Donc Ishmaël, là, il essaie d'empêcher la naissance d'Israël. Par la suite, quand Israël naîtra, il va essayer de le tuer. Parce que bon, il joue avec lui, il tire des flèches autour, un peu dessus. D'accord. Il joue un peu avec le feu. Si jamais il y avait une flèche qui avait la bonne idée de dévier, ça ne le dérangeait pas. Mais après, à la fin de sa vie, il va faire tchouva à Ishmaël. À l'enterrement d'Itsrak, Ishmaël, il laisse la priorité à Itsrak. C'est marqué dans le passouk. Ils sont venus, Itsrak et Ishmaël. Après, probablement, enfin, c'est même. Probablement que le lien entre Ésaü et Ishmaël, c'est le lien, il est parce que à un moment donné, quand Ésaü qui avait épousé des Cananéennes, il voit que ça. Il fait comme s'il le voyait seulement maintenant, que ça ne plaît pas à Yitzhak. Alors il va épouser une fille d'Ishmaël. Pour montrer, voilà, j'ai épousé, moi aussi j'ai épousé une fille de la famille. Ishmaël, c'est la famille. Ce n'est pas une Cananéenne. Mais avec ça, il n'a pas divorcé les Cananéennes. Il allait, celle-là est encore une. Et il semble que dans cette démarche-là, on peut dire que Esav, il est en train de manipuler Ishmaël. Il utilise Ishmaël, c'est pas du tout qu'il veut lui s'allier à Ishmaël. C'est que prendre une fille d'Ishmaël, ça le met en meilleur terme avec son père. D'accord, mais il utilise Ishmaël. Et c'est ça un grand problème. Comme vous savez, quand on parle des Shivim Umot HaOlam, on dit il y a 70 peuples, et à la tête, il y a un couple. Il y a Esav et Ishmaël. Et dans l'ordre, comme j'ai dit, Esav et Ishmaël. Normalement, on devrait dire, si on tient la chronologie, Ishmaël et Esav. Mais le patron, le grand patron, c'est Esav. Alors Ishmaël, on a peut-être Ishmaël, il est effectivement manipulé par Esav. Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui aussi, Ishmaël est manipulé par Esav. C'est déjà la politique d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais c'est possible. Donc ça, c'est l'annonce à Sarah de ce qu'elle va avoir un enfant. Alors le Midrash continue là sur le Passouk qui dit, comme si on ne savait pas, le Passouk dit, Avram et Sarah zkenim, Avram et Sarah sont vieux. Ils sont Baïm, Bayamim. Ça sera dit encore une fois sur Abraham. Ba, Bayamim. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire être Ba, Bayamim? Moi, je n'ai rien. Ici, dans le stone, il ramène un Zohar qui dit que chaque jour de la vie d'une personne apporte son lot de défis et de tâches à accomplir. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut être remis à demain, car le lendemain aura un autre objectif. Les grandes âmes comme Abraham et Sarah égrènent au fil de leur vie des journées intactes, toutes bien remplies. Tel est le sens de l'expression Bayamim. Ils sont venus avec les jours, ils sont parvenus à un âge avancé avec une riche moisson de journées employées à bon escient. C'est ça que ça veut dire. Ils viennent avec leurs jours. Quand nous, des fois, on se dit, qu'est-ce que tu as fait pendant ces vacances? Je n'ai rien fait. Dire voilà, j'ai passé 15 jours à rien faire. Je suis trempé dans la mer régulièrement, et puis c'est tout, quoi. C'est ce que j'ai fait. J'ai mangé, j'ai bu, nagé un peu. Je n'ai rien fait. On dit d'Abraham et de Sarah ici, ce que eux, leur jour était rempli complètement. Chez eux, il n'y avait pas un jour. On n'a rien fait. Ils ont toujours rempli la journée, ils ont fait quelque chose de leur journée, de chacune de leurs journées. Bon, c'est intéressant que, et si est-ce qu'il faut l'entendre, qui est Baïm Bayamim ensemble, donc on parle de ce qu'ils ont fait ensemble, que leur journée était toujours remplie ensemble. Étant donné que par la suite, on va dire d'Abraham qu'il était Baba Yamim, tout seul. Je ne crois pas que ce soit dit sur Sarah, mais c'est dit sur Abraham. Ça veut dire qu'Abraham, peut-être on parle ici de ce qu'Abraham a fait quand Sarah était déjà plus là. Mais là aussi, ses jours à lui, bien que Sarah n'était plus là, elles étaient quand même pleines les journées d'Abraham. Mais ici, quand on dit Abraham et Sarah Baïm, ensemble, Bayamim, c'est-à-dire c'est un couple qui a tout fait ensemble. C'est pour ça que c'est un peu difficile de comprendre qu'Abraham ait pu envisager d'avoir un descendant qui ne soit pas, enfin d'avoir un fils qui ne soit pas le fils de Sarah et que ce soit lui, son descendant. C'est des choses qui sont. Moi, ça me dérange un peu, j'entends. J'arrive pas vraiment à comprendre. Ils ont fait quand même tout fait ensemble. Ils sont parents, c'est sa nièce. Bon, ça veut dire, ces deux-là, on peut pas imaginer Abraham tout seul. On sait bien qu'il a fait une grande partie de sa vie tout seul après la mort de Sarah. Mais disons, tant qu'elle est là, tout se fait ensemble.
Je ne sais pas si c'est dans le texte, on est là, c'est-à-dire qu'il sait que peut-être ça peut déclencher quelque chose. Parce qu'elle a pu avoir un enfant après que Agar ait eu un enfant et Ishmaël, Sarah.
Oui, bien sûr.
Peut-être que la femme, je ne sais pas, il y a peut-être ceux qui rentrent dans ce processus qu'elle a initié ça. Peut-être qu'il le perçoit, je ne sais pas sur quoi on peut s'appuyer pour dire ça.
Non, moi, ça me parle pas, je n'entends pas. Et Hachem lui dit, il dit à Abraham, Ouli Ishmael Shmaticha, j'ai entendu ce que tu demandes pour Ishmael. Il va devenir un grand peuple. Les tsarot qu'on a avec Ishmael, grand peuple, on les doit à Abraham. C'est Abraham qui a prié pour que Ishmael soit un grand bonhomme. Parce qu'Hachem a entendu dans la prière d'Abraham. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on a besoin de. Le monde a besoin de ce que Ishmaël peut apporter au monde, quoi. Même s'il faut repousser beaucoup de choses, etc., mais il a une nécessité. Et ça aussi, tout le monde, tout ce qui existe a une nécessité. Non, mais. Mais bon, ça c'est moi qui ai du mal. Entendre qu'Abraham puisse avoir envisagé de faire de produire un clan d'Israël avec Agar. C'est pas tellement Agar, mais sans Sarah. Compliqué.
Il avait envisagé de faire appel à Israël avec Agar et saint Sarah.
Il
Mais
a
peut-être que c'était.
Ishmaël, il dit à Hachem. Pourquoi tu vas faire cette espèce de ce grand miracle de faire que nous deux vieillards nous allons avoir un enfant? S'il faut un peu arranger les choses, arrange Ishmaël pour qu'il devienne un type bien. On a Ishmaël là, c'est mon enfant. Tu m'as promis que j'aurai une descendance. Ok, on a tout ce qu'il faut. Ah, il n'est pas vraiment ce qu'on veut. Comme tu fais un miracle de faire en sorte que nous ayons des enfants. Tu peux aussi faire un miracle que Ishmaël soit bien. Hachem lui dit non, c'est pas. Ton descendant, ce sera Yitzhak. Et Beitzhak qui carré le Chazara. C'est en Yitzhak, c'est même en une part de Yitzhak que tu auras ta descendance.
Vous, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a une pointe de trahison, enfin pas de trahison, mais de.
Il y a une pointe envisager, c'est un peu renforcé avec ce Baïm Bayamim ensemble. C'est un couple, je veux dire, on a du mal à entendre Avraham tout seul, tant qu'elle est vivante, quoi. Elle n'est plus là, elle n'est plus là, mais tant qu'elle est vivante, on n'entend pas. Elle lui a sauvé la mise en Égypte aussi et tout.
Il ne peut pas être comme ça, pas avoir une pointe de trahison, mais que c'est par rapport au précède, peut-être que lui, c'est le précède qui veut passer par là.
J'entends, je peux le faire le raisonnement, mais dépend. Donc Avram et Sarah étaient vieux. Rabbi Yochanan dit, puisqu'il est déjà écrit, Avram et Sarah étaient vieux, pourquoi répéter plus bas, on va dire, Avram était vieux? C'est que Akadosh Baruch Hu, lui ayant rendu toute sa jeunesse, il a fallu écrire une seconde fois qu'Abraham était vieux. Comme Sarah est redevenue jeune, puisque quand l'ange a annoncé qu'elle allait avoir un enfant, une des raisons pour laquelle elle a ri, ici, c'est parce que tout à coup elle a aperçu qu'elle a tout à coup eu des règles. Et on ne sait pas si elle n'est pas d'utérus. Est-ce qu'elle n'a jamais eu de règles et tout à coup elle en a un? Ou bien elle a eu des règles, mais elle n'était jamais ménopausée depuis un moment. Bon, les deux sont possibles. En tout cas, elle est très surprise. Et donc là, elle espèce de rire, c'est sent presque mal à l'aise, quoi. Tout à coup, elle redevient jeune, si on parlait comme ça. Elle redevient capable d'avoir des enfants, et donc il faut redire qu'Abraham est vieux. Dans le premier cas, il s'agit d'une vieillesse pleine de sève, dit Rabbi Ami, et dans le second, d'une vieillesse sans sève. C'est-à-dire sans que. Ils sont vieux, mais c'est tout. Il est vieux, mais c'est tout. C'est vieux, mais c'est pas qu'il va avoir des enfants. Alors le Midrash dit que Sarah n'avait pas de règles comme les autres femmes. Chadal, elle était privée d'eux. Chadal s'entend, si tu ne fais jamais de vœux, il y a un passouk dans Dvarim qui parle de des nedarim, des vœux, et qui parle de, qui dit que peut-être c'est mieux de ne pas faire de vœux du tout. Terdal, là, c'est le même mot. Et donc, il faut entendre ici, ne pas du tout, fais pas du tout de vœux, ou alors ça signifie, cela s'arrêta, c'est-à-dire, Chadal la saute à Pessah. C'est-à-dire, ils ont arrêté de faire Pessah. Donc, ou bien elle n'en a jamais eu, ou bien elle n'en avait plus. Dire que Sarah, dans son état de vieillesse, en fait, elle va avoir un enfant, ça devrait suffire. Pourquoi le Midrash, il nous fait un cours de gynéco, de problèmes, des rêves, etc. Pourquoi il nous raconte tout ça? Je veux dire, en quoi c'est important qu'on connaisse le détail de. Évidemment, a priori, Hachem a bien pu faire un miracle qu'il y ait un enfant. Il y en a d'autres qui ont essayé, quoi, de faire un enfant sans qu'elle ait l'utérus, etc. Mais bon, On ne fait pas ça. Mais là, on n'aurait jamais pensé. Même si la Torah ne nous avait pas dit cela, on aurait bien compris que c'est après comme ça que ça doit se passer. Pourquoi la Torah, elle fait pas de temps en temps, tiens, c'est, je vais raconter un peu plus de détails là-dessus, etc. Ça n'existe pas dans la Torah. Tout est devenu Torah. Bon, parce que, voilà, c'est. En quoi, c'est quoi, à la limite, quel est l'enseignement que moi je suis censé tirer de ces détails gynécologiques qui sont donnés sur Abraham et Sarah. Ils sont vieux avec ça, d'abord on le sait, même d'accord, ils disent, bien qu'ils soient vieux, ils vont avoir un enfant, très bien. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de détailler ce processus? Qu'est-ce que ça nous apporte finalement? Donc c'est visiblement, ce qui nous est dit ici, c'est pas simplement que, bien qu'étant vieux, ils ont eu des enfants. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est comme si on leur avait donné, dans leur vieillesse, des années de jeunesse, quoi. Enfin, une année de jeunesse. Ils se sont retrouvés comme s'ils étaient jeunes. C'est pas seulement concrètement ils ont eu un enfant. Bon, l'important c'est que Rachid le dit aussi un peu sur le texte. Il y a un changement des corps. Enfin, essentiellement c'est dit sur le corps de Sarah, mais il y a un changement du corps qui fait que c'est pas une vieille dame qui a un enfant. Elle a un enfant comme une jeune femme a un enfant. On aura aussi cette idée que elle va être capable d'allaiter toutes sortes d'enfants parce que on raconte que les gens, évidemment, ils vont dans les réseaux sociaux de l'époque, ils ont tout de suite écrit que c'était pas du tout vrai qu'ils ont eu un enfant, que ils ont ramassé un enfant dans la rue, un bébé dans la rue, et ils le font passer pour leur enfant. Et donc, il faut que Sarah fasse une démonstration de ce qu'elle est vraiment la mère de l'enfant. Il faudra qu'elle montre qu'elle est capable d'allaiter cet enfant. Mais comme pour montrer que c'est sans limite, elle va devoir aussi allaiter tous les mioches du quartier, quoi. Parce que faut montrer. Et donc c'est ça qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas de simplement avoir un enfant. Ce n'est pas une vieille dame qui a un enfant. Donc, ils sont revenus à un stade de jeunesse. Et donc la question qui se pose, c'est évidemment pourquoi est-ce que c'est nécessaire que ce soit comme ça? Non, en d'autres termes, Yitzhak n'est pas un enfant de la vieillesse. D'accord? Il est né comme un enfant de la jeunesse. Il se trouve que dans le livret de famille, si on regarde, on s'aperçoit que à sa naissance, les parents étaient des vieillards. Mais ça ne s'est pas vu. C'est pas vu. Sarah est redevenue une jeune femme. Au point qu'il faille dire, oui, mais Abraham était vieux quand même. Ça, c'est étrange parce qu'Abraham, lui, il n'est pas redevenu jeune. C'est Sarah qui. La mère, elle revient. Il a une mère jeune. Et un père plus âgé. À ma connaissance, il n'y a pas de. Je ne connais pas de Midrash qui dise que chez Abraham aussi, il y a eu une espèce de retour de la jeunesse. Il est toujours il est très très puissant, Abraham. Même au moment de la Akedah, c'est. C'est un bonhomme, je veux dire. C'est pas un vieillard, il n'est pas quelqu'un qui. On est déjà 37 ans plus tard. Ben, à l'Akedah, Yitzhak, il a 37 ans. Donc Abraham, il a 37 ans de plus. Et il est. Voilà, c'est quelqu'un qui avance, qui marche, qui. Évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça change pour notre affaire ici que Sarah soit redevenue jeune, qu'est-ce que par rapport au fait qu'elle était quand même une vieille dame. Elle aurait pu avoir un enfant, comme c'est miraculeux de la faire revenir en arrière, on aurait pu faire un miracle, c'est tout. Dans son état de vieillesse, elle a un enfant. C'est pas obligé qu'elle revienne dans de façon archi-classique, quoi. Non, c'est un enfant qui naît et qui est né d'une mère. C'est une jeune mère.
Peut-être qu'elle n'est pas revenue plus jeune, mais de nouveau, je ne pas une autre jeunesse.
C'est sûrement une autre jeunesse parce que dans cette jeunesse-là, elle a un utérus, alors que dans sa première jeunesse, elle n'avait pas l'utérus.
Non, moi, j'ai beaucoup pensé à l'expression supplément d'âme.
Hein?
À l'expression supplément d'âme. Et
D'abord, c'est un supplément de corps. Oui.
voilà, c'est là, on passe d'abord par un supplément de corps. Mais peut-être que pour arriver à un supplémentaire, c'est-à-dire pour quelque chose
Ah non, bien
qui.
sûr, vous avez raison, mais c'est quoi la vraie différence? Savoir si on a une mère. Est redevenue jeune ou bien si c'est une mère qui a eu un enfant et qui est vieille.
Ouais, c'est comme s'il y avait, il pouvait y avoir d'autres choses après, quoi. C'est le début de quelque chose. Quand si elle est vieille, c'est presque l'enfant, il clôture quelque chose, alors que si elle redevient jeune, il annonce quelque chose.
Si elle redevient jeune, là en l'occurrence, ils vont vivre ensemble pendant 37 ans. Pendant 37 ans, il a une mère qui a 37 ans de plus que ce qu'elle avait au moment de sa naissance, mais elle est encore relativement jeune. À supposer qu'elle soit redevenue comme une fille de 18 ans, je ne sais pas. Bon, ça, elle sera plus toute jeune au moment de la Akedah, mais elle ne sera pas vraiment vieille. Mais qu'est-ce que ça change? On
Moi,
voit
je trouve que la
qu'il sera.
différence que ta chance, c'est que si elle n'avait pas prévu déjà, si tu avais dit juste, elle a rencontré, elle a l'impression qu'elle n'aurait pas eu que ça aurait été quelque chose de donné sans qu'elle participe. Alors que là, il y a un processus qui va se faire en elle. Il va y avoir une gestation, elle va être, il va y avoir une maternité, il va y avoir tout ça. C'est pas juste qu'elle a un enfant.
Oui.
En faisant abstraction de tout ce qu'elle va apporter elle-même. Là, on insiste sur la maternité de Sarah, quand même.
Oui, enfin, de toute manière, les imaot, elles sont appelées matriarches, c'est des imaot, ce n'est pas des femmes, ce n'est pas des nashim ou de grandes femmes simplement, elles sont imaot. De même que les patriarches sont des pères. Alors, vous avez raison, il y a cette différence qui est que c'est comme si, premièrement, ça va faire que Yitzhak, d'une certaine manière, il va avoir une vie normale, une jeunesse normale, avec une mère, comme tout le monde, et pas. Un ancêtre qui l'a mis au monde.
Mais c'est bizarre que les dit que Abraham, enfin, c'est pas bizarre, c'est tout ce qu'on doit entendre dans le fait qu'on précise qu'il est vieux, Abraham, quand même. Laquelle elle a refusé, elle a. Je sais pas, elle a dit que lui, Est-ce qu'on le dit de lui pour qu'on comprenne elle par le contraste?
Ça veut dire que la maternité, elle a quelque chose à voir avec la jeunesse, alors que la paternité, pas obligatoirement.
Pareil, relever le gène, parce que sinon les gens auraient pu nier que le trait vient d'elle. Si ça avait été une vieille femme qui venait de ses 50 ans,
Ça ne les a pas empêchés de raconter partout que l'enfant n'était pas d'elle. Je crois que c'est ça. Je crois que ça vient de dire le fait que la maternité est attachée à une certaine jeunesse, alors que la paternité, pas autant, quelque part. A priori, la nature, comme on dit, elle fait cette différence, je veux dire. Alors, il y a encore un morceau de Midrash que j'ai lu en français, je n'ai pas lu en Kodesh. Khadal liot le Sarah Orar Kanashim. Donc, effectivement, on avait dit Khadal avec deux lectures possibles. Ou bien il n'en a jamais eu, ou il n'y en avait plus. Il n'y en a plus de règles. Ermad Atama, Vechiter Dal Lindor. Donc là, ce qu'on avait vu, le passouk qui parle des Nédarim, il dit que si tu te prives de faire des vœux, c'est mieux. Passak Echma de Atama, mais Khadal la Sotapesa. Bon, c'est de psukim, on voit les deux lectures possibles du mot de Khadal ici. Nerdal, Adal. OK. Et puis après, maintenant il vient le gros morceau. Vatitzrach Sarah bekirba lemor. C'est un des dvarim sheshinu le Talmai Amelech. Vatitzrach Sarah bikrovera lemor. Le Midrash ici nous fait un petit cours d'histoire. Donc Sarah a ri. Et on nous dit qu'elle a ri en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire rire en elle-même? Je ne sais pas, elle n'a pas éclaté de rire. Elle a ri presque intérieurement en disant, elle a ri en disant, Vatitzrak Sarah Bekirba, mais mort, Aré oti Aitali Edna, Vadoni Zaken. C'est-à-dire, après avoir été, j'étais dans un état, ils ont traduit flétri, j'étais vieille, quoi, en fait, ridée, flétrie, si on veut. Alors je retrouverai de la fraîcheur. Et mon époux, il est vieux. Qu'est-ce qu'elle veut dire ici en disant que, OK, moi, je redeviens jeune, mais mon mari, il reste toujours vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de son rire, là, Bekir Ba, le Midrash ici, c'est ce qu'on va encore, on peut encore voir ça maintenant. Il dit que c'est un de ceux qui ont été modifiés à l'intention du roi Ptolémée. Talmaï, c'est le roi Ptolémée. Ptolémée, c'est à la mort d'Alexandre le Grand, ses généraux se sont partagés son royaume. Et on sait, à cause de l'histoire de Hanouka, la Syrie, elle a été prise par un général et donc ses descendants, on les appelle les Séleucides. Et l'Égypte, le côté égyptien, a été pris par des généraux qui s'appellent les Ptolémées. En hébreu, ça se dit Talmaï. Et Talmaï, il y a un des Ptolémées à un moment donné qui a décidé que il voulait savoir exactement qu'est-ce que c'est que cette Torah des Juifs là. Donc il l'a fait traduire. Mais il savait qu'on lui a. Il n'avait pas les moyens de vérifier si la traduction. Si on lui, la traduction qu'on lui fournissait était vraiment la bonne traduction, alors il a convoqué certainement 120 personnes, enfin, beaucoup de Chachamim. Il les a mis dans des petits baraques. Ils ne pouvaient pas communiquer. Les téléphones portables confisqués et tout. Et il leur a dit, ben, traduisez. Et donc, il y avait des problèmes. Parce qu'il y avait des mots qui étaient un peu ambigus. Il avait une femme qui s'appelait Arnevet. Arnevet, c'était un lièvre ou quelque chose comme ça, ou la femme du lièvre, je sais pas. Et donc, il savait pas comment traduire Arnevet. On ne voulait pas le laisser, on ne pas traduire en grec, je sais pas comment ça se dit, mais bon. Alors, il y a eu la Gemara dans Megillah, elle fait la liste des changements. Ils ont eu Siyata Dishmaya et ils ont tous changé certaines choses, mais tous ont changé de la même manière. Et ce verset-là, c'est un des versets qui a été changé. Pourquoi? Parce que, comme ils disent ici, le problème, c'est que pourquoi en fait, Avram, il a aussi ri quand Hachem lui a annoncé qu'il allait avoir un enfant. Et Sarah, elle rit. Pourquoi on fait des reproches seulement à Sarah? D'accord? C'est pas normal. On aurait dû faire les mêmes reproches à Avram. Alors, pour enlever cette critique-là, à cause des féministes de l'époque, etc., il fallait faire des changements. Et ils ont changé Bekir Ba, au lieu de traduire elle a ri dans son sein, en elle-même, ils ont traduit Sarah rit avec ses proches, c'est-à-dire publiquement, quoi. Et donc, on comprend, elle a ri publiquement. Avram, il a ri, mais en privé. Donc, on comprend qu'on a fait des reproches à Sarah et pas à Avram. Donc, ça, c'est une remarque intéressante que nous fait le Midrash ici. A priori, ça n'a rien à voir avec le sujet. Le problème, c'est qu'elle a ri. Elle a ri et c'est un rire avec des paroles. Elle a dit, moi je deviens jeune, mais mon mari, il est vieux. Dans le Midrash, il va expliciter ce qu'elle a dit. Après Après que j'ai été flétri, comme ils avaient traduit, ou usé, j'aurai à nouveau Edna. Edna, c'est la même chose que Eden, du jardin bien connu qui s'appelle Eden, ouais, un Eden, c'est-à-dire du plaisir. Alors, le Midrash dit, tant qu'une femme, je vous lis la traduction française tout de suite, tant qu'une femme est jeune, s'écria Sarah, elle porte de beaux bijoux, et moi qui suis usée, j'aurai à nouveau Edna, j'aurai à nouveau des bijoux. Où est-ce qu'on sait que la jouissance, le plaisir, c'est les bijoux? Il y a un passouk dans le Navi Heskel qui dit, je te parais d'une parure. Et la parure, c'est dit, est dit. Tant qu'une femme est jeune, elle a ses règles. Et moi qui suis une vieille, j'aurai de nouveau Edna, des règles. Parce que Idanim, c'est des règles aussi. Donc une femme est jeune, elle peut tomber enceinte. Douyin. Et moi qui suis usée, j'aurai à nouveau une grossesse. Edna, ça peut dire aussi une grossesse. Mais mon maître est vieux. Littéralement, il mouline sans produire de sucre. Bon, c'est une métaphore sexuelle un peu particulière. Commentant Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda bar Rabbi Shimon dit, chacun de vous, s'exclama Kadosh Baruch Hu, se rajeunit et vieillit l'autre. Et moi, Hachem parle. Aurais-je donc aussi trop vieilli pour produire des miracles? Là, parce que Hachem va dire, est-ce que Aïpalé, est-ce que moi je pourrais pas faire des miracles? Est-ce que alors le Midrash il a compris, est-ce que je suis trop vieux pour faire des miracles aussi? Sarah, elle dit, donc, tant qu'une femme est jeune, elle a des règles, et moi qui suis usé, j'aurai. C'est un futur, c'est pas le conditionnel. J'aurais, c'est pas comment est-ce que je pourrais. Non, j'aurais, elle est sûre. Elle a compris. Donc dans cette métaphore un peu osée là, ça veut dire que c'est l'âge d'Abraham qui pose problème, c'est pas le mien. Moi, je suis redevenu jeune. Bon, le problème, c'est lui, il est quand même vieux. Mais c'est intéressant parce que ce Midrash, il est un peu direct et il dit que Abraham, il est impuissant, quoi. Il dit, ça veut dire, comment c'est possible? Lui, il produit plus de sucre, quoi. Il a plus de zéra. Il y a des gens qui sont assez âgés, qui ont encore une production de sperme. Je veux dire, c'est pas complètement rédhibitoire. Non, elle parle, d'après ça, le Midrash, il met dans sa bouche. Il est vieux, ça veut dire. Moi, je suis jeune, je pourrais avoir des enfants, mais il faudrait que mon mari puisse en avoir aussi. Il n'en a pas. Elle sait qu'il ne produit plus rien. Donc, il va y avoir un miracle avec Abraham, d'après ce midrash-là. Pas seulement un miracle qu'elle va avoir des enfants. Le miracle, il est que lui, c'est vrai qu'il a eu un miracle. Il est sorti de son état initial dans lequel il était. Toum-toum, il était aussi complètement stérile, mais il en est sorti puisqu'il a eu Ishmaël. Une fois qu'on est sorti de cet état de toum-toum, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, c'est simplement que voilà, il ne produit plus. Tout ça, c'est dans le rire de Sarah. Ce rire intérieur de Sarah, c'est ça qu'il veut dire. Ce n'est pas qu'elle a dit tout ça. Ce rire-là, quand elle rit Bekirba, et qu'elle dit, elle dit très peu de mots. Elle dit, moi je suis jeune et mon mari il est vieux. Et le Midrash comprend. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire c'est toutes ces choses-là qu'elle a énoncées et que le, enfin que tel que le Midrash les présente. Et là, on voit que elle comprend que dans une naissance, parce qu'il va donner une naissance, c'est tout un processus et il est nécessaire de comprendre que chacune des étapes est une étape pour soi qui ne garantit pas du tout que l'étape suivante aura lieu. Bon, ça veut dire, on dit, ouais, la femme elle est enceinte et elle accouche. Le Midrash dit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a tout un processus et chacune des étapes est une étape pour soi. D'ailleurs, il arrive effectivement que des femmes qui font au départ des fausses couches parce que l'utérus n'est pas encore prêt et qu'il a besoin de mûrir, il a besoin de maturité. Et sa maturité, c'est que il commence par être capable éventuellement, dans le meilleur des cas, est capable de garder un fœtus, je ne sais pas, 3 mois, puis après, il n'est pas capable d'assurer la suite et peut-être dans une grossesse ultérieure, il pourra aller jusqu'à 5 mois, jusqu'à 7, éventuellement jusqu'à 9. Mais donc chacune des étapes est une étape qui n'est pas du tout garantie parce qu'il y a eu l'étape précédente. Il ne faut pas imaginer que c'est un processus qui, s'il commence, il va jusqu'au bout. Parce qu'elle détaille chacune des étapes. Elle dit, je vais avoir du plaisir, je vais avoir des parures, mais donc, ça veut dire, tout ça, c'est tout ce processus, c'est j'aurai des règles, je pourrais être enceinte, et j'aurai de nouveau une grossesse.
Pourquoi ça, des choses qui m'échappent, pourquoi le fait qu'elle décrive, ça nous fait dire que
Pourquoi elle en fait tout un pourquoi elle pourquoi le Midrash fait une séquence? Il aurait pu dire au début qu'est-ce qu'elle a dit? Moi je vais redevenir jeune et c'est tout et du coup j'aurai un enfant, terminus.
pas le fait de décrire.
D'accord. Si on le décrit, ça veut dire que le Midrash il veut mettre en évidence chacune des étapes. Si vous voulez, c'est un peu la même chose que ce qu'on fait dans la Haggadah, quand on énumère les Dayenu, là, bon, chacune de ces étapes, à elle toute seule, aurait justifié aurait justifié que nous soyons éternellement reconnaissants à Hachem. Il aurait pu faire ça de façon non miraculeuse, pas du tout. Hein, ça aurait pu couler de source comme ça, c'est tout. Rien passé. Et là, et c'est pour ça qu'on dit à l'achat kama ve kama qu'il faut exprimer notre reconnaissance pour chacune des étapes. Et là, il ne faut jamais considérer, ça fait partie de la reconnaissance que de mettre en évidence toutes les étapes d'un processus et de ne pas considérer qu'un processus qui commence, il a terminé. Il commence et bien, c'était pas, ça, des fois, cette étape-là, elle peut avoir lieu toute seule. Elle aurait pu avoir
Ok, du coup,
des
ça veut dire.
règles et pas avoir d'enfants. Elle aurait pu avoir tout à coup concevoir, mais la grossesse, elle n'arrive pas à terme, etc. Il y a plein d'éléments qui, chacun pour soi, doit être reconnu comme un chesed, surtout quand on est dans une situation comme la sienne.
Il y a une totalité organique, mais la réussite de chaque étape s'achève.
Oui, non, mais même organiquement, c'est pas du tout acquis. Vous voyez bien qu'il y a des femmes qui ont fait une fausse couche à un mois, à 3 mois, à 5 mois, etc.
Ça veut pas.
Et même tout à la fin, l'enfant, il est né, il est mort-né.
Et ça veut pas dire que moi
Ben, ça veut dire que les étapes antérieures, elles ont eu lieu.
oui, mais même s'il y a une fausse couche, si on considère que chaque événement est
Unique.
non, qui est voulu par Hachem,
Oui.
on pourrait dire que ça échoue. Organiquement, ça aurait pu se faire, mais c'est Hachem qui a décidé. C'est pas la chose n'est pas organique, l'échec. Comme la réussite n'est pas liée à l'organisme. Si on décrit chaque étape comme ça, si on remercie à chaque fois,
Oui.
qu'est-ce qu'on remercie qui? On remercie Hachem.
Oui, bien sûr.
Donc si on remercie Hachem, c'est qu'il a eu une intervention.
Mais il faut remercier Hachem pour ce temps pendant lequel on a pu rêver qu'on allait avoir un enfant comme ci, un enfant comme ça, etc. Et même si ça n'arrive pas finalement, ben, ce temps pendant lequel on a rêvé, il ne faut pas considérer que c'était nul puisque ça n'a pas abouti. C'est un moment où on a pu rêver, on a pu faire des projets, etc. Alors c'est vrai que c'est difficile après, mais sur le moment, c'est comme des gens qui, y compris les gens qui divorcent, par exemple, ils oublient complètement s'il y en a eu, peut-être ça n'a jamais eu, mais il y a des moments où des gens qui, aujourd'hui, qui divorcent au temps T, mais jusqu'au temps T-1, quoi, quelque part, ils ont eu une vie très agréable, mais après, il est arrivé quelque chose qui fait que, bon, ça s'est arrêté. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle. C'est un temps où où tu as pris du plaisir, bon, ensemble, etc., que l'autre, il était sympa, elle était sympa, etc. Ça a une valeur en soi. Il ne faut pas, parce que le résultat n'est pas ce qu'on attendait, considérer que tout le processus, ne valait rien du tout. Ce n'est pas vrai. Il y a c'est des bons moments quand même. Voilà, on va s'arrêter là.